Radio B. Bonjour à tous, bienvenue dans ce magazine, un magazine un peu spécial aujourd'hui. Une heure de voyage entre réel et imaginaire. Le réel, c'est un groupe de personnes réunies autour d'un projet initié dans le cadre d'un parcours de santé au centre psychothérapique de l'Ain, à Bourg-en-Bresse. Et l'imaginaire, c'est la création collective qu'a réalisé ce groupe de personnes, à savoir un conte que vous allez entendre en 4 épisodes. Et entre chacun de ces épisodes, nous allons échanger sur la fabrication de ce conte, les différentes étapes qui ont permis d'aboutir au produit final. À cet échange vont participer plusieurs personnes qui sont avec moi aujourd'hui dans le studio et qui vont se présenter.
Aude.
Gariba.
Marie-André.
Angélique.
Brigitte.
Jonathan.
Kathleen.
Et Christine, donc, pour terminer. Alors, pour commencer, je voudrais donner la parole à Marie-André, qui est à l'origine de ce travail, qui l'a porté tout au long de ces 9 mois, pour qu'elle nous explique un petit peu comment ça a démarré et comment elle a réussi à mener cette œuvre à son but ultime.
Bon, bonjour. Eh bien, comment c'est parti? J'ai eu envie. C'est parti d'une envie personnel, c'est d'aller voir nos origines, de voir nos racines, parce que c'est quelque chose qui revenait souvent dans les discussions, dans les réunions, trouver nos racines, hein, prendre nos racines, trouver les origines de... Et je me suis dit, et pourquoi pas écrire un conte parlant de ses origines, de ses racines, en partant de l'histoire d'un arbre. Et j'ai fait cette proposition, qui a été plutôt bien accepté. Puis après, bah, ça a été la grande aventure. Hein. Donc, j'ai interpellé plusieurs personnes pour m'aider, pour entourer ce projet. Donc, Christine, toi, hein, par rapport à l'écriture, parce que bon, je ne suis pas très, très douée pour l'écriture.
C'est ce qu'elle dit, ça.
Voilà. Donc, appel à toi. Et puis après, je me suis dit, tiens, pour la musique, on était parti sur de la musique contemporaine, sur les autres années, parce qu'on a fait quand même. C'est le troisième volet de projet. Je me suis dit, tiens, et si on partait en Afrique, parce que c'est une musique, un pays qui parle beaucoup des origines. Et puis au niveau des contes, hein, par rapport au griot, avec toute cette culture, je me suis dit, bon, si on faisait appel à Pépé. Un Pépé, bon, je crois que sur Bourg, tout le monde le connaît. Hein,
parce alors Pépé, c'est Draman, son prénom, c'est ça?
Draman ou Drago, voilà. Ouais. Et qui fait un groupe avec Kilécan, avec plein de choses comme ça au niveau de la musique. Donc, il est quand même connu ici. Et il était aussi d'accord de participer à ce projet. Donc, nous l'avons eu. Et puis, on avait besoin de quelqu'un qui s'occupe du son. Donc, on a fait appel à Stéphanie, à Steph, hein, Stéphanie Claire, qui s'occupe... qui a fait le lien entre le son de la parole, parler, chanter, et la musique. Donc, elle a fait ce lien entre tous aussi, pour laisser une trace de ce travail. Donc, on est parti à l'aventure parce que qu'est-ce que ça allait donner? Des idées, c'est bien beau, mais on était parti pour l'aventure et sur 9 mois, bien, on a accouché de quelque chose qui nous a vraiment, vraiment plu. Moi, je parle pour moi déjà, qui m'a beaucoup plu dans les émotions, dans tout ce qui s'est passé. Mmh. Donc, c'était le troisième volet. On a travaillé avec des différents partenaires. La première année de travail, on avait travaillé avec la tannerie, avec le rap. La deuxième année, avec la radio, hein, Radio B ici, où on a travaillé sur l'enregistrement de 3 émissions.
Deux émissions.
Oui, je crois bien. Voilà. Deux émissions. Et puis le troisième travail avec le partenariat avec la médiathèque. Les médiathèques de Bourg-en-Bresse. Donc voilà, on a travaillé aussi donc avec Nathalie, qui travaille à la médiathèque, hein, et qui nous a accueillis, qui nous a écoutés.
Oui, parce que ça, c'était, tu as parlé de tout le début, là, ouais. comment ça a débuté. Et finalement, ça a abouti à quoi alors, ce projet?
Donc à une représentation donc, de ce conte. À la médiathèque Vaillant, à la salle des comptes là-haut, hein, donc où il y a eu plein d'invités. On était une quarantaine, hein, à peu près 40 personnes qui sont venues entendre, voir cet aboutissement. Ce n'était pas un spectacle, mais un rendu d'atelier. Donc, c'est vrai que ben, tout au long de l'année, on ne savait pas ce qui allait aboutir, hein, comment ça allait aboutir, si on allait... On est parti à 6, vous êtes arrivé à 4, hein, mais quel beau voyage et quelle belle expérience. Et un beau travail de partage et de convivialité.
Eh bien, merci. Donc, voilà, ce conte s'appelle « L'arbre aux mille couleurs ». Et on va faire une petite pause musicale, puisqu'on a parlé d'arbres, on a parlé d'Afrique, donc avec un morceau africain. C'est une femme qui chante, qui s'appelle Khadija Jnine, un morceau qui s'appelle « Sambolera Mayi Son ». Comme je vous le disais tout à l'heure, cette émission a pour objet de vous faire entendre le conte, mais aussi d'échanger nos commentaires, nos impressions, et de voir ensemble tout ce qui nous reste de cette expérience. Donc, je vais reposer une question à tout le monde là. Est-ce que vous souvenez de comment on a commencé l'écriture? Quel exercice a débuté au départ?
Parce que je ne m'en rappelle pas.
Alors, Aude ne se rappelle pas. Est-ce que Kathleen s'en souvient?
Moi, pareil.
Pareil, donc ils ont une mémoire courte. Est-ce que Gariba se souvient?
Moi, je me souviens qu'on a fait un réservoir de mots.
Bien, oui, c'est ça.
Sur le thème de l'Afrique, l'arbre. Et à partir de ça, on a commencé à écrire chacun une partie du conte. Enfin, on s'est regroupé à deux, trois personnes pour l'enfance, l'adolescence, l'âge adulte et la vieillesse.
Voilà, c'est ça. En fait, il y avait peut-être une partie que tu as oubliée, Jonathan. C'est le moment où je vous avais donné une amorce qui était « Il était une fois un arbre qui rêvait ». Et puis chacun avait écrit une suite à cette phrase-là. Vous vous rappelez de ça?
Oui.
Voilà. Et en fait, ça a donné des choses assez diverses. Alors, je les ai rapportées ici pour qu'on se rappelle un petit peu ça. Par exemple, on avait eu un arbre qui voulait marcher pour découvrir le monde. Un arbre qui voulait voler à côté des avions, qui voulait prendre le large sur un bateau pour aller s'enraciner ailleurs, quitter la grande plaine où il s'ennuyait tout seul. Donc, c'est intéressant parce que même si ce n'est pas exactement sous cette forme-là, on va retrouver ces éléments-là dans le conte final. Et ils étaient là au départ. Il y avait une autre direction qui était intéressante aussi. Vous aviez dit un arbre qui voulait apprendre à chanter pour charmer tous les arbres de la forêt. Chanter avec les oiseaux posés sur ses branches. Et on va retrouver un oiseau dans le conte. Hein. Chanter et danser tous les jours pour oublier sa solitude et la perte de ses feuilles. Il va être question aussi de solitude. Donc c'est intéressant de retrouver tout ça dans le conte final. Mais ça, c'était que le début. Et après, effectivement, vous avez travaillé, alors ça c'était individuel, et après vous avez travaillé en groupe. Est-ce que quelqu'un peut nous parler un petit peu de cette expérience de travail en groupe? Alors Gariba, peut-être?
Oui, eh bien, on s'est réparti en 4 groupes.
C'est cela,
ouais. Et à partir de ces réservoirs de mots, il en est ressorti un tas d'idées, un tas de directions qui ont été prises. Et puis, ça a laissé place à l'imagination de tout le monde.
Voilà, donc c'est pas facile hein, d'écrire à plusieurs. Hein. Vous êtes rendu compte, parce que chacun a envie de suivre son propre chemin. Donc, il faut faire des compromis.
De faire des concessions.
Voilà, exactement. Est-ce que ça a été dur pour vous de faire des concessions?
Non, ça va.
Non, Kathleen?
Non.
Non? Aud?
Ça a été.
Voilà, donc c'est vraiment un travail de groupe, hein, et c'est pas facile d'écrire à plusieurs, je crois qu'on a pu s'en rendre compte. Peut-être qu'on peut rajouter aussi qu'aux 4 étapes de l'histoire, de 4 étapes du conte, correspondaient 4 étapes de la vie et 4 saisons dans l'année. Hein, c'est-à-dire qu'on a associé printemps, enfance, été, adolescence, automne, âge adulte, et puis hiver, vieillesse.
Moi, je tenais surtout à te remercier pour avoir fait le lien entre toutes ces étapes, donc l'enfance, l'adolescence et l'âge adulte, parce que comme tu le disais, c'était intéressant ce travail en petits groupes, mais on se demandait au départ comment ça va se réunir. Et en fait, c'est surtout grâce à toi que ça s'est réuni, parce que tu as su lier ces différentes étapes.
Faire la sauce. Oui, alors c'est vrai qu'on procédait un petit peu pour expliquer les choses. Chacun écrivait, chaque groupe écrivait. Et puis moi, à la fin de chaque séance, je rassemblais tout ça. Et puis j'essayais de faire du lien entre ce qui avait été écrit. Je faisais des propositions à la séance suivante, qui étaient ou non suivies. Puis on repartait chaque fois. Donc c'était vraiment un chemin fait ensemble, quoi. Donc avec beaucoup de plaisir, je crois. De ma part aussi, je tiens à le signaler. Bien, eh ben, je crois qu'il est temps maintenant d'écouter la première partie de ce conte. Donc il va s'agir de l'enfance.
Éruption.
Tempête.
Extrême.
Tremblement.
Chaleur.
À l'aube du premier jour, sur un sol aride et par un froid extrême, une minuscule pousse jaillit des entrailles de la terre. Seule, contre la tempête, elle parvient à survivre malgré des vents violents, malgré des froids secs auxquels succédaient des chaleurs torrides. Le deuxième jour, la tempête cessa, laissant place à un calme olympien. La petite pousse, fragile et isolée, avait tenu bon et était de plus en plus vivace. Le chaos et les turbulences naturelles qui avaient accompagné sa naissance faisaient d'elle une proie facile à la destruction. Mais c'était sans compter sur son envie de pousser et de raconter l'histoire de la vie. Thank you.
J'ai eu de la chance jusque-là. Je me suis accrochée. Mais arrête de me malmener.
Ce n'était pas dirigé contre toi, mon petit. Je souffrais simplement de démangeaisons. Et j'ai dû faire le nécessaire pour me gratter.
Le troisième jour, sous un soleil radieux, l'arbrisseau verdoyant se tenait droit. Il n'avait encore que de toutes petites branches, avec à peine quelques feuilles aux extrémités.
Merci, mon beau soleil. Comme tu es généreux. Comme ça fait du bien de sentir tes rayons sur mon écorce et sur mes feuilles.
Pas de problème, mon garçon. J'ai de l'énergie à revendre. Si tu veux, je peux encore monter le chauffage.
N'exagérons pas tout de même. Je commence à avoir un peu soif. Et je n'ai pas envie de finir complètement sec.
Fort heureusement, le quatrième jour, notre arbrisseau fut arrosé d'une pluie fine et profita de cette aubaine pour croître et s'ancrer de plus en plus solidement dans le sol qui se couvrit peu à peu de fleurs multicolores.
Pluie, douce pluie, est-ce toi qui fais naître ces mille couleurs ?
Oui, oui, c'est grâce à moi que tout peut pousser sur terre. Et puis, quand on s'y met à deux avec le soleil, voilà ce que ça peut donner.
C'est alors que l'arbre, médusé, vit apparaître un gigantesque pont de couleurs au-dessus de lui et entendit le soleil et la pluie s'exclamer.
Tu vois, l'ami, ça c'est notre dernière trouvaille. On l'appelle arc-en-ciel. Étonnant, non ?
Le cinquième jour, l'arbre entendit une toute petite voix près de lui. Il se pencha et réalisa qu'elle provenait de l'une des petites fleurs qui avait poussé à son pied et se haussait maintenant sur sa tige.
« Regarde comme je suis belle. Et ce n'est pas tout. Penche-toi un peu sur moi. »«
C'est que mes branches sont petites. Et c'est vers le ciel qu'elles se tendent, pas vers toi. »«
Oui, bien sûr. Mais si tu te concentres très fort, tu vas percevoir quelque chose, même si nous ne sommes pas proches l'un de l'autre. »
L'arbre se concentra très fort. Et au bout de quelques instants seulement, perçut le divin parfum qu'exhalait la petite fleur et en fut charmé. Au début du sixième jour, il faillit être écrasé par un énorme animal qui galopait dans la savane. Un rhinocéros qui passa près de lui à toute allure en criant
« Poussez-vous, poussez-vous, je suis en retard !»
L'arbre se dit qu'il était bien content d'être là, immobile, sans avoir à courir de ci, de là, et risquer, comme ce rhinocéros, de manquer un rendez-vous. Il menait une vie calme et n'aspirait qu'à grandir au fil des jours. Son tronc était encore gracile, mais se dressait fièrement vers le ciel. Ses petites feuilles gorgées de sève s'agitaient au vent. Au septième jour de sa vie d'arbre, il constata qu'il n'était plus un enfant et qu'il entrait désormais dans son adolescence.
Alors, vous avez pu entendre les voix de nos quatre conteurs, enfin 4, 5, 6 parfois, et vous avez pu entendre aussi des instruments de musique. Donc, ce serait intéressant d'entendre un petit peu vos commentaires par rapport au travail que vous avez fait avec Pépé, dont Marie-Andrée a parlé tout à l'heure. Alors, comment vous l'avez rencontré, Pépé ? Comment ça s'est passé au départ ? Gariba ?
Eh bien, par l'intermédiaire de Marie-Andrée.
Oui.
Et que dire de Pépé ?
Quel effet vous a fait Pépé ? Comment ça s'est passé ?
C'est quelqu'un d'hyper chaleureux.
Très chaleureux, oui. Ouais. Donc vous avez accroché tout de suite.
Ah ouais. Puis moi, perso, quand il arrive avec ses instruments, j'avais pris le billet pour partir en Afrique.
D'accord, donc c'est un voyage musical aussi.
Ouais.
Jonathan ?
Un voyage.
Ouais.
C'était...
ça a permis de dépayser un peu, de se dépayser en fait. Et c'est vrai qu'il nous a fait découvrir des instruments auxquels on, enfin qu'on ne connaissait pas en fait.
Oui, bien sûr. Mmh. Ouais. Et donc ça aussi, ça a fait partie du voyage alors.
Ah, puis c'est d'autant mieux que celui qui fait les instruments, quoi.
D'accord, parce que Pépé est
luthier.
D'accord, et luthier. Mmh. Et est-ce qu'il y a besoin de savoir jouer de ces instruments ou...
Non.
Gariba ?
Justement, c'est là la magie qu'ont ces instruments. C'est-à-dire que Pépé nous a montré tous ces instruments et on se les est appropriés et on s'est initié un peu comme on le sentait, comment lui nous a laissé libre cours à nos sensibilités respectives et on s'est approprié ces instruments et on a voyagé grâce à Pépé. Donc on s'est plutôt familiarisé avec ces instruments-là.
D'accord. Et on pourrait peut-être dire, enfin vous allez peut-être confirmer, mais ça vous a aussi donné de la confiance en vous, parce que finalement le fait d'aborder des instruments qu'on ne connaît pas et puis de se rendre compte qu'on peut en tirer des sons et qu'on peut en faire quelque chose, ça a peut-être aidé aussi après pour donner ce conte à entendre à un public, il me semble.
Ça a donné une belle unité. Moi, je garderai ça en souvenir. Le lien musical, ça nous a permis d'être unis. Et oui, une très belle unité.
Mais quel instrument on a utilisé ?
Ah, est-ce que vous vous souvenez de tous ces instruments ? Au moins de quelques-uns ?
Oui.
Kathleen ?
Oui, alors je me souviens... Enfin, c'est récent, en fait, mais je me souviens du balafon.
Oui.
C'est un instrument qui est assez grand, on va dire. Et puis, sur lequel on utilise avec lequel on utilise des baguettes.
Ouais.
Donc,
est-ce que c'est celui qui vous a le plus marqué ou le plus plu au niveau du son? Ou est-ce qu'il y a un autre instrument que vous avez particulièrement apprécié de jouer? Aude?
Moi, je dirais le ngoni, parce que c'est un instrument... qu'on soit musicien ou pas, on arrive à en jouer même que.
Le ngoni, c'est celui qu'on va entendre dans l'épisode à venir là. Vous avez tous joué ensemble et ça fait effectivement un très beau tapis sonore pour le conte.
Alors, ce qui était intéressant aussi avec Pépé, c'est qu'il nous a initié, non, mais il nous a jamais appris à jouer. Hein. On a utilisé l'instrument comme on en avait envie. Et ce qui était bien aussi, c'est qu'il nous a raconté un peu l'histoire de ces instruments en même temps, sans nous en mettre pendant des pages, oui, des
c'était
pages.
Pas un cours.
Mais c'était pas un cours, mais justement de se dire que ce balafon, ben, à l'origine, il était que pour les funérailles, hein, d'où sa forme, un peu de cercueil. Hein. Donc c'était pour les funérailles, par exemple le ngoni.
Ah oui, vous rappelez ?
Utilisé par les médecins qui allaient de village en village et qui se trimbalaient avec leur ngoni et
qui allaient dans la forêt.
Qui allaient dans la forêt récolter les plantes qu'il fallait.
Chercher des racines.
Des racines.
Voilà, d'où peut-être l'effet très apaisant de cet instrument. Hein.
Et puis le crin, l'instrument préféré de Gariba, qui était pour.
Qui était pour les rois.
Voilà.
Donc c'est un instrument royal, on peut dire.
Eh ben voilà, pour une reine.
Et puis il y a aussi l'arrivée des nouvelles en Afrique. Elle est annoncée en fait par l'arrivée de l'oiseau et en fait l'arrivée des nouvelles à travers la chanson qu'on entend dans le conte aussi.
Du Kono.
Kono, Kikiki, et puis tout le reste.
Voilà. Donc, il y a aussi des paroles africaines dans le conte.
C'est la chanson qui a créé Pépé, finalement. C'est lui qui l'a écrite. Ouais.
Voilà. Donc, vous verrez que c'est un leitmotiv qui revient à plusieurs reprises dans le conte. On va passer maintenant donc au deuxième épisode. C'est l'adolescence.
Ses branches s'étiraient vers le ciel, tandis que ses racines s'enfonçaient toujours plus profondément dans la terre. Il se sentait tiraillé entre des désirs contradictoires. D'un côté, il aurait voulu grandir plus vite. De l'autre, il regrettait de ne plus être le petit arbuste choyé par le soleil et la pluie, ses deux parents qui avaient veillé sur lui depuis sa naissance. Son humeur pouvait varier d'un instant à l'autre. Sans raison apparente, Il passait de l'enthousiasme le plus débridé à la tristesse la plus noire. Il devenait aussi de jour en jour plus rebelle. Tantôt il reprochait au soleil d'être trop chaud, tantôt il se plaignait de que la pluie était trop fraîche. Lorsqu'il faisait jour, il se languissait de la nuit, et lorsque la nuit venait, il se désespérait de voir baisser la lumière du jour. Rien ne trouvait grâce à ses yeux, et tout était prétexte à exprimer son mécontentement. De plus, il se sentait mal dans son écorce, qui avait été jusqu'alors si lisse, mais se couvrait désormais de petites excroissances qu'il jugeait fort disgracieuses et qui accroissaient encore son malaise. Un jour, il vit venir à lui une charmante antilope aux yeux de braise. Celle-ci, après lui avoir copieusement reniflé le tronc, se coucha à son pied et ne tarda pas à s'endormir.
Le jeune arbre fut alors envahi d'une intense émotion qui le parcourut tout entier, du bout de ses racines jusqu'à l'extrémité de ses branches. Il osait à peine respirer, de peur de réveiller la belle endormie. Il se retenait d'agiter ses feuilles et il goûtait avec délice au plaisir procuré par cette toute nouvelle intimité. Il allait s'endormir lui aussi, lorsque l'antilope se leva d'un bond, donna rapidement quelques coups de langue à son pelage, comme pour se réajuster après ce trop bref abandon, et détala sans un mot d'adieu. L'arbre fut si bouleversé par ce départ soudain qu'il ne put, lui non plus, prononcer une seule parole. Il la regarda piteusement s'éloigner, navré de ne pouvoir la suivre, et gambader avec elle vers de nouveaux horizons. Ce fut là son premier émoi amoureux, mais aussi son premier chagrin d'amour. Il resta mélancolique pendant quelques jours, mais il reprit assez vite confiance en lui et se mit désormais à observer avec beaucoup d'attention les créatures qui venaient à passer près de lui, dont certaines faisaient naître en lui le même émoi. Mais sa très grande timidité le retenait chaque fois d'aborder ces belles, et c'était seulement dans ses rêves qu'il parvenait à être le prince charmant à qui tout réussit.
L'histoire de ce making of, comme on dit en anglais. On a eu l'écriture, on a eu la musique. Après, il a fallu travailler sur la représentation de ce conte, parce que le but, quand même, c'était de le donner à entendre à un public. Donc, qu'est-ce qui a été pour vous, comment vous l'avez vécu, cette phase-là? Qu'est-ce qui a été difficile? Qu'est-ce qui a été plus facile? Comment ça a évolué?
pour ma part, ça a été difficile de trouver la bonne intonation, le bon rythme, le bon tempo. Ouais.
Et c'est venu quand même.
C'est venu.
C'est venu, même quand tu étais un peu enroué et que c'était pas facile toujours. Ouais. Hein.
Heureusement voilà. Pour la présentation, j'étais plus enroué. Mais...
Ouais. Oui, et puis le fait d'affronter un public aussi, c'est quand même pas facile. Hein. Mais vous l'avez. On a parlé tout à l'heure, Marie-André disait qu'il a été donné à la médiathèque. On peut peut-être préciser aussi que vous l'avez donné dans d'autres circonstances. Est-ce que quelqu'un peut nous parler un petit peu de ça? C'est-à-dire les représentations qui ont précédé celles de la médiathèque.
Oui, alors on a fait une représentation donc, à la salle Molière, voilà. Mmh. Une autre représentation.
Les deux,
voilà, toujours pareil au même endroit. Et après, la troisième représentation, ça a été à la médiathèque.
À la médiathèque Vaillant, voilà.
Je précisais que c'était pour les personnes âgées et des ados.
Voilà, donc les deux premières. C'est-à-dire que vous restiez un petit peu dans les murs du CPA, et puis ensuite, ça a été orienté vers l'extérieur. Et avec un public invité, avec des gens qui sont venus, qui sont venus des amis, et qui sont venus vous écouter et qui ont beaucoup apprécié. Hein, on a eu leurs échos après, ça a été vraiment un beau travail. Voilà, est-ce qu'il y a d'autres choses que vous aimeriez dire par rapport à la mise en voix? Jonathan disait que c'était pas évident d'articuler, de trouver la bonne intonation.
Le bon rythme aussi.
Le bon rythme.
Le fait d'essayer de se détacher de la feuille quand on lit, de regarder le public, c'était pas forcément très évident.
Voilà, et c'est vrai que c'est un exercice qui demanderait encore bien plus de pratique que ce qu'on a eu ensemble, mais je pense que l'évolution, enfin moi je l'ai vue chez vous, elle a été vraiment très très importante entre le début où on manque de confiance et puis petit à petit on arrive à un résultat très très appréciable. Alors,
on a eu trois phases d'enregistrement aussi. Hein, et je pense que Gariba va pouvoir nous en parler.
Pour ma part, quand je m'écoute au niveau du premier enregistrement, c'est pas très concluant parce que j'ai un regard assez pas critique, mais je me dis qu'il y a peu de confiance en moi, il y a une certaine timidité, c'est le premier jet, c'est le premier jet. Et puis, grâce à différents conseils, c'est-à-dire le positionnement de la voix, du regard, comme disait Kathleen, c'est-à-dire lire, en même temps lever la tête, regarder le public, reposer le regard sur la feuille. C'est plein de choses que j'ai pris en compte et ça m'a permis quand même de mieux m'imprégner du texte. Voilà. C'est plus confortable, ça a été beaucoup plus confortable pour moi.
Oui, et puis petit à petit, on pénètre peut-être mieux le sens du texte, à force de le dire, à force de le répéter.
Oui, puis du coup, à la fin, on peut jouer avec.
Voilà, tout à fait.
Et plus seulement le lire, mais de jouer avec les intonations. Hein, c'est... Aude, qu'est-ce que vous pouvez...
Ouais, c'est vrai qu'au début, quand on commence à lire le texte, on ne peut pas mettre toutes les intonations. Il faut le lire plusieurs fois et ça met du temps avant de pouvoir faire quelque intonation que ce soit. Parce que il faut déjà s'imprégner du texte et puis avant d'y mettre le ton.
Bien sûr, bien sûr.
Je crois que chacun, à travers les premiers enregistrements, ont pu voir l'évolution du travail. Et c'est vrai qu'à la dernière représentation, on a vu que chacun avait évolué dans le travail et dans cette diction aussi et le regard. Enfin, tout y était à la dernière représentation.
Parfaitement. Eh bien, rejoignons notre arbre. C'est l'âge adulte maintenant pour cet arbre. Écoutons-le.
À l'aube de ses 25 ans, l'arbre avait atteint sa taille d'adulte. Il avait acquis davantage de confiance au fil du temps et il se dressait, là, orgueilleux et imposant. Son feuillage, d'un vert étincelant, brillait sous le généreux soleil de juin.
Tout va bien. Je devrais être heureux. Je communique avec tout ce qui est autour de moi, mais je me sens souvent seule.
Chaque nuit, il rêvait à une rencontre qui changerait le cours de sa vie. Une de ces nuits, il se réveilla en sursaut et vit, posé sur une de ses branches, un animal, avec des couleurs somptueuses qui le regardaient fixement.
Coco, coco, laïla.
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 Dina, Dina.
Colo, kikiki.
Dina, Dina.
Colo, kikiki.
Que se passe-t-il? Qui es-tu? Que me veux-tu?
Je suis Rêve, l'oiseau magicien. Je vais te faire don de 7 plumes magiques aux 7 couleurs de l'arc-en-ciel. À toi d'en trouver l'usage, et ce faisant, tu ne te sentiras plus jamais seul. Je reviendrai te voir à l'automne de tes 60 ans. Au revoir, l'ami.
Puis, l'oiseau s'envola, laissant l'arbre sidéré par ce qui venait de se passer. Il crut d'abord que ce n'était qu'un rêve. Il secoua ses branches pour se réveiller, et aperçut alors, à son pied, les 7 plumes qui brillaient dans la nuit. Il n'avait pas rêvé. L'oiseau magicien s'était bel et bien adressé à lui, et les plumes étaient bien là. Qu'allait-il en faire? Au cours des jours et des mois qui suivirent, il s'échina à leur trouver un usage.
Les disperser dans son feuillage? Pour en diversifier la couleur? Ce n'était guère du goût de ses feuilles, qui trouvaient que ses voisines multicolores étaient une insulte à leur verdeur. Les planter dans son tronc, comme des flèches? Ce n'était guère du goût de son écorce, qui ne tenait pas particulièrement à voir sa peau tailladée par ses étrangères. Les attacher à ses racines pour qu'elles distillent lentement leur pouvoir magique dans la terre? Ça ne plaisait pas du tout aux racines qui faisaient leur travail dans le noir et n'entendaient pas être assistées de ces illuminés.
Notre arbre commençait à désespérer de trouver le bon usage de cette plume, lorsqu'un jour il vit venir à lui un être étrange qui ne ressemblait à rien de ce qu'il avait pu voir jusqu'à maintenant.
Toi, avec tes deux troncs, tes deux branches sans feuilles au bout, comment t'appelles-tu? Pardon? Je ne t'ai pas très bien compris. Tu peux répéter?
Homme.
Ainsi donc, tu t'appelles Homme. Drôle de nom.
À ce moment précis, le regard de l'homme se posa sur les 7 plumes que l'arbre avait abandonnées à son pied. Il se saisit de la première et se mit à dessiner sur le tronc de l'arbre. Puis, en retournant la plume, l'homme mit de la couleur sur son dessin. Et à l'aide des 6 autres plumes, il multiplia les couleurs sur la toile de l'arbre. En un clin d'œil, le tronc fut couvert de dessins colorés. L'arbre comprit bien vite qu'ils avaient chacun leur langage. L'homme était là pour dessiner le monde, tandis que lui, l'arbre, était là pour dire le monde.
Alors, l'arbre décida de déplier son écorce pour agrandir la toile de l'homme afin qu'il puisse continuer à dessiner le monde. Et, en effet, il poursuivit son œuvre. Pendant des mois, des années, l'écorce de l'arbre continua à se dérouler et l'homme continua à dessiner et à peindre tout autour de la terre. Il fit les montagnes, les océans, les forêts, les fleuves, les animaux, et même d'autres hommes comme lui qui se mirent à dessiner et peindre à leur tour des maisons, des villages, des villes.
Lorsque ses pas le ramenèrent au pied de l'arbre, il était bien fatigué, mais il était aussi bien content de retrouver celui qui lui avait permis de réaliser sa grande œuvre. Et l'arbre, lui aussi, était content de retrouver celui qui avait créé tant de beaux paysages autour de lui. Mais il manquait quelque chose à leur bonheur. Il manquait à l'homme la parole pour qu'il puisse communiquer avec l'arbre. Aussi l'arbre entreprit-il d'apprendre à l'homme à parler. Au départ, ce fut assez laborieux, il fallait enregistrer tant de mots nouveaux.
Moi, arbre.
Moi, arbre.
Toi, homme.
Toi, homme.
Nous, sur la terre.
Nous, sur la terre.
Debout.
Debout.
Nous pouvons parler.
Nous pouvons parler.
Rire.
Rire.
Chanter.
Chanter.
Nous sommes au monde.
Nous sommes au monde.
Peu à peu, la mémoire de l'homme s'aiguisa. Il fut capable de répéter des phrases de plus en plus longues.
Je suis allongé sous l'arbre. Je regarde le ciel à travers ses feuilles.
Puis, il arriva à exprimer lui-même ses émotions, sa pensée.
J'aime regarder les nuages qui passent dans le ciel. J'aime sentir la pluie sur mon visage. J'aime respirer l'odeur de la terre après la pluie. Je me demande quel rôle je dois jouer dans ce monde.
Enfin, il put échanger vraiment avec l'arbre.
Tu crois que les hommes sont faits pour être heureux ?
Je ne sais pas. Mais une chose est sûre, ils ont tout pour l'être. Reste à savoir s'ils le désirent vraiment.
Tu crois que quelqu'un pourrait les en convaincre ?
Peut-être que oui, s'ils sont disposés à écouter sa parole.
Alors, ne faudrait-il pas qu'eux aussi apprennent à parler, à exprimer leurs émotions et leurs pensées ?
Peut-être que oui, si toutefois ils acceptent de s'écouter entre eux.
Tout autour d'eux, les minéraux, les végétaux, les animaux se réjouissaient de l'harmonie que diffusaient l'homme et l'arbre. Et chaque jour était une fête.
Qualité de cet enregistrement dont vous êtes témoin, elle est due à Stéphanie Claire, hein, dont Marie-Andrée parlait tout à l'heure. Alors, comment ça s'est passé, le travail avec Stéphanie, l'enregistrement ? Qu'est-ce que vous pouvez en dire ?
Ça n'a pas toujours été simple.
Alors, qu'est-ce qui était difficile, Aude ?
Ça demandait énormément de concentration.
Ouais.
Et...
Ouais, c'est pas facile, hein, de donner de l'énergie.
Et de la patience.
Voilà.
Mais de la patience, parce qu'en fait, on devait répéter à toutes les séances les mêmes, le même déroulement du conte. Donc, c'est vrai que c'est un petit peu
répétitif. Donc, il faut arriver à garder de l'énergie, même si on a l'impression de refaire les mêmes choses. Mais voilà, il faut que ça se peaufine aussi. Hein. C'est comme un acteur qui travaille un rôle.
Bah, c'est exactement ça, et puis c'est tout le professionnalisme de Steph, c'est-à-dire qu'elle nous a mis en condition, elle nous a pas dirigé, mais elle nous a mis dans de bonnes conditions.
Voilà, beaucoup de professionnalisme et beaucoup de disponibilité, vous aviez dit aussi, hein, quelqu'un qui est disponible, et quelle autre qualité on pourrait lui trouver ?
Toujours le sourire.
Ah, ça, c'est important.
Ça, c'est important parce que quand on a quelqu'un qui nous fait la tête toute la... Hein, on n'a pas envie de le faire. Hein.
C'est sûr.
Ça ne nous encourage pas. Quand c'est déjà un travail difficile hein, de la voix, de poser sa voix, de prendre un rythme. Et en plus, on nous fait la gueule. Non, ça va pas.
Ça se fait pas.
Non.
Alors, il y a peut-être une autre personne aussi que vous avez rencontrée au cours de cette expérience et qui vous a marqué aussi. C'est Nathalie à la médiathèque. Qui est-ce qui peut nous parler un petit peu de cette rencontre?
Peut-être en dire deux mots.
Aude, oui.
Elle a déjà écouté notre conte. Et après, elle se l'est appropriée à elle toute seule. Elle nous l'a conté sans avoir le conte sous les yeux, quoi.
Voilà, sans papier.
Voilà, sans papier. Elle était vraiment... ça a été le top, quoi.
Et quel effet?
Vraiment très vivant et plein d'émotions, quoi. Mmh. Plein de chaleur, plein d'émotions.
Et je pense que vous, ça a été aussi une expérience que cette histoire dans laquelle vous aviez baigné depuis un moment, on vous la renvoie autrement et que vous vous rendiez compte à quel point elle pouvait être vivante, justement. Hein.
Ouais.
Alors, évidemment, l'idéal, ça aurait été d'arriver à cette étape-là, mais...
Eh bien, effectivement, c'est le but du conte, c'est la transmission, c'est-à-dire que ça ne s'écrit... Enfin, il n'y a pas spécifiquement de trace écrite. Ce qu'a fait Nathalie, c'est vraiment ce qu'on fait d'un conte, c'est-à-dire la transmission de personnes à d'autres personnes. Et puis, elle se l'est appropriée avec sa personnalité, avec son bagou, avec ses déplacements, avec sa voix, avec tout ce qui est propre à elle.
Voilà, quoi, beaucoup d'énergie.
Beaucoup d'énergie, voilà.
Et puis, grâce à elle, il va être transmis encore à la médiathèque, et ça, c'est génial.
Bien, alors, dernier épisode, maintenant, c'est la vieillesse de l'arbre, c'est l'hiver.
Cependant, au bout d'un certain temps, l'homme sembla se lasser de cette harmonie. D'autant plus qu'il sentait confusément qu'il avait peut-être un rôle à jouer parmi les siens, que c'était à lui de transmettre la parole qu'il avait reçue de l'arbre. Il finit par confier son trouble à son ami.
« Tu sais, j'ai beaucoup réfléchi. Je crois que la belle relation que j'ai avec toi et avec toute la nature autour de nous est une étape dans l'évolution du monde. Nous pouvons aller plus loin, toucher d'autres hommes pour qu'ils apprennent eux aussi à dire le monde et à communiquer entre eux. C'est à moi de leur apprendre ce que tu m'as appris. Et le monde sera encore plus beau si ce bienfait est partagé entre tous. »
L'arbre ne fut pas surpris de cette confession. Il avait, bien sûr, deviné que l'homme ne s'en tiendrait pas là et qu'une vie harmonieuse avec la nature ne lui suffirait pas longtemps. Il savait aussi qu'il ne servait à rien de chercher à le retenir auprès de lui.
Je comprends que ton désir t'emmène voir ailleurs, là où tu penses avoir à continuer ta mission. Néanmoins, je suis triste de te voir partir. Et, quoi qu'il arrive, je veux que tu saches que je serai toujours là pour t'accueillir et peut-être t'aider si tu as besoin d'un avis ou d'un conseil. N'hésite pas à revenir. Je suis ton ami et je le resterai à jamais.
L'arbre regarda l'homme partir et suivit longtemps sa silhouette jusqu'à ce qu'elle ne soit plus qu'un point à l'horizon. Il fut immensément triste et toute la nature autour de lui s'attrista également. Les jours raccourcirent. Le soleil se fit moins ardent, puis le ciel se couvrit de nuages. La brise légère de l'été se mua en un vent violent.
Se mirent à jaunir. Il n'avait plus de goût à rien. Les animaux essayaient en vain de le distraire. Il restait le plus souvent absorbé par ses pensées. Il venait d'avoir 60 ans.
Eh oui, je suis à l'automne de ma vie.
À cet instant, rêve, l'oiseau magicien vient se poser sur l'une de ses branches.
Coco, coco, la, ila.
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 Dina, Dina.
Colo, ki, ki, ki.
Dina, Dina.
Colo, ki, ki, ki.
Bonjour, mon cher arbre. Je t'avais dit que je reviendrais. Eh bien, me voilà. Tu sais, j'ai pu observer toute ta vie depuis le ciel. Et j'ai vu combien tu t'es investi pour que ce monde évolue. Je t'en félicite. Tu as su tirer parti des plumes que je t'avais données, mais je vois bien que tu es triste d'avoir perdu ton meilleur ami et d'être à nouveau seul. Allons, courage! Tu dois continuer à avoir foi en l'avenir. Tu peux être fier de ce que tu as fait et tu as encore de belles années devant toi. N'hésite pas à faire de nouveau appel à moi si tu as besoin d'aide.
Alors l'oiseau reprit son envol et disparut dans le ciel.
Après son 60e anniversaire, l'arbre continua à perdre ses feuilles. Tout autour de lui, le monde avait bien changé. Les hommes avaient cultivé la terre, élevé des animaux, construit des maisons, des usines et produit des tas d'objets dont on ne savait plus que faire. L'arbre était sans cesse sollicité par les uns ou les autres qui faisaient de plus en plus de bruit et ne prenaient plus le temps de s'écouter. Tout le monde parlait à tort et à travers.
Moi, il y a une chose que je ne supporte pas, c'est que quelqu'un empiète sur mon territoire.
Moi, tout ce que je sais, c'est qu'on m'empêche de faire ce que je veux.
Moi, je veux bien être gentil, mais je ne vois pas pourquoi je devrais respecter des règles qui ne me conviennent pas.
Moi, c'est simple, je ne tolérerai pas qu'on touche à ma liberté.
Moi, j'ai pas d'avis sur la question, mais je ne me tairai pas pour autant.
Moi, je veux bien être gentil, mais je ne vois pas pourquoi je devrais respecter des règles qui ne me conviennent pas. Moi, je veux bien être gentil, mais je ne vois pas pourquoi je devrais respecter des règles qui ne me conviennent pas.
Je ne veux pas. Non, je ne touche pas à ma liberté.
Je ne veux pas.
Et les paroles des hommes devenaient de plus en plus négatives, de plus en plus agressives. Les conflits entre eux se multipliaient. Les ressources naturelles étaient pillées. Le monde se compliquait de plus en plus. La vie était constamment bafouée. La nature elle-même perdait ses couleurs. Tout devenait gris et froid. On était au milieu de l'hiver. L'arbre s'était réduit à un squelette, mais sa nudité le rendait encore plus imposant. Cependant, les hommes étaient tellement occupés à se haïr et à se faire la guerre qu'ils ne faisaient même plus attention à lui, et il se sentit à nouveau très seul. Un jour, il vit venir à lui son ami, le premier homme, le seul qui était resté sensible et respectueux des autres, le seul qui se souciait encore de l'avenir du monde.
Arbre, mon bel arbre, toi qui as appris le langage aux hommes, toi qui leur as donné cet outil formidable pour qu'ils puissent mieux se comprendre et s'aimer, tu es le seul qui puisse nous aider à retrouver la paix.
Comme je suis heureux de te revoir et de constater que tu es resté le même. Je voudrais bien t'aider, mais je suis vieux maintenant. Je n'ai plus beaucoup de force. Et puis, comment veux-tu qu'à nous deux nous changions le cours des choses?
Coco, coco, la, ila.
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 Dina, Dina.
Colo, ki, ki, ki.
Dina, Dina.
Colo, ki, ki, ki.
À cet instant précis, l'oiseau rêve arriva, et avec lui sept oisillons qui semblaient lui faire escorte et qui étaient tout aussi joliment colorés que lui.
Allons, les amis, il ne faut pas vous décourager. Je suis venu avec ma petite famille pour vous aider. Je vous présente mes sept rejetons. Ils s'appellent amour, paix, humanité, espoir, joie, tolérance et le petit dernier, c'est avenir. Vous allez voir ce que vous allez voir.
En effet, Ce qu'ils virent les laissa sans voix. Les 7 oisillons se disposèrent en ligne, à la façon d'une escadrille. Et lorsqu'ils prirent leur envol, ils dessinèrent dans le ciel un merveilleux arc-en-ciel. Ils sillonnèrent ainsi toute la voûte céleste, et sur leur passage, les hommes se taisaient, comme saisis de stupeur. Il n'y eut plus aucun bruit sur terre, ce fut un silence assourdissant, le monde se figea.
Lorsqu'ils eurent survolé toute la terre, ils revinrent se poser sur les branches de l'arbre. Amour entonna un chant d'une pureté surnaturelle. Puis les 6 autres se joignirent à lui, et ce fut la plus mélodieuse des polyphonies qui se mit à résonner dans l'air. Le soleil, intrigué, pointa le bout de son nez et vint éclairer le visage de l'homme sur lequel se dessina un magnifique sourire. Il réchauffa aussi les branches nues de l'arbre qui ne tardèrent pas à se couvrir de bourgeons. Ce fut à nouveau le printemps.
Lorsque le chant des oiseaux fut terminé, les bruits du monde reprirent et les voix des hommes se firent entendre à nouveau, mais elles étaient bien différentes maintenant. L'agressivité et la violence avaient disparu. La discorde avait cédé la place au respect. La vie avait repris ses droits.
L'arbre, l'oiseau et l'homme se félicitèrent de cette métamorphose. Ils se promirent qu'ils seraient à jamais les gardiens de ce nouveau monde et veilleraient jalousement à ce que les hommes conservent et entretiennent d'une génération à l'autre les valeurs distillées par les oiseaux de l'arc-en-ciel.
Notre conte est terminé. En guise de conclusion, on pourrait avoir un mot chacun, un mot qui résume votre expérience. Aude?
Moi, je dirais richesse.
Yariba?
Plaisir.
Marie-André?
Cannoulé.
Partage. Unité.
Découverte.
Dépaysement.
Et pour terminer, moi je dirais aimer, parce que c'est aussi le titre du morceau qui va conclure cette émission, un morceau de Rokia Traoré. Au revoir.